Imaginez une seconde que chaque pensée, chaque action envoie une onde dans l'univers et que cette onde vous revienne. Inévitablement. C'est cette idée, un peu folle, mais hyper puissante, qui est au cœur d'un grand texte taoïste qu'on va explorer aujourd'hui.
Oui, on s'attaque au Taishang Ganyin Pian. Alors, la traduction, c'est quelque chose comme le traité du Très-Haut sur l'action et la réponse. C'est un guide moral qui a eu une influence, mais vraiment colossale, sur la culture chinoise pendant des siècles, bien au-delà des cercles de sages, hein.
Et pour cette exploration, on a des sources géniales. D'abord, une traduction française du texte. Ensuite, les commentaires d'un maître taoïste d'aujourd'hui, Sun Xinde, qui donne une perspective de l'intérieur. Et puis, mon préféré, une collection de vieilles histoires illustrées, les touches-choux. C'était fait pour graver ces leçons dans les esprits.
Au quotidien, comment cette grande idée devient un guide pratique pour aligner sa vie avec ce qu'ils appellent le Dao, l'harmonie de l'univers.
D'accord, alors on plonge. Le texte commence par une phrase qui met tout de suite les pieds dans le plat. Le malheur et le bonheur n'ont pas de porte. C'est l'homme lui-même qui les appelle. C'est radical comme affirmation, non?
Ah oui, c'est direct. Ça veut dire arrêter de blâmer la malchance ou le destin. Tout part de nous.
Et tout nous revient.
Voilà, c'est le principe de Ganyin, l'action-réponse. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas présenté comme un dieu qui juge et qui punit. C'est décrit comme une loi de la nature, presque une loi physique, tu vois. L'univers est un immense champ de résonance. Chaque acte, chaque intention, c'est une vibration qu'on émet et l'écho nous revient. C'est mécanique.
L'univers qui répond à nos vibrations, c'est une belle image, mais ça reste un peu philosophique. Comment un texte aussi populaire a pu rendre cette idée concrète pour les gens de l'époque?
Bah justement, pour que ce soit tangible, le texte déploie une imagerie très très parlante, celle d'une sorte de bureaucratie céleste, une administration spirituelle qui observe et qui note tout 24 heures sur 24.
Un audit permanent de notre âme en quelque sorte, au moins c'est clair.
C'est ça. Et il y a deux types de surveillants. D'abord, les externes, des divinités comme celle de la Grande Ourse qui, depuis le ciel, enregistre nos fautes et réduisent notre temps de vie en fonction. Mais les plus intrigants, ce sont les surveillants internes, les trois esprits cadavres, les Sanshi. Et le texte dit qu'ils habitent à l'intérieur de notre corps.
Attends une seconde. Des esprits qui vivent en nous et qui vont nous balancer au ciel. Pour un esprit moderne, ça sonne un peu comme une superstition pour faire peur aux gens, non? Pour qu'ils se tiennent à carreau.
C'est une lecture possible, au premier degré. Et c'est précisément là que l'interprétation du maître Xingde devient passionnante. Pour la tradition de l'alchimie interne, le Nedan, ces esprits, les Sanshi, ce ne sont pas des entités extérieures. Ce sont des symboles, des métaphores de nos propres forces destructrices.
Ah, d'accord.
Oui, nos tendances à l'entropie, nos pensées négatives, nos désirs excessifs. Bref, tout ce qui nous tire vers le bas et qui nous bouffe notre énergie de l'intérieur.
Ok, donc ce ne sont pas des espions divins, mais une image pour nos propres démons intérieurs. Nos schémas autodestructeurs, en fait.
Précisément. Ils sont décrits comme consumant notre énergie vitale, ce que la tradition appelle les trois trésors.
Les trois trésors. C'est quoi exactement? C'est plus que l'énergie au sens large.
Ah oui, beaucoup plus. Le premier, c'est le Jing. C'est notre essence vitale, notre batterie de départ, si tu veux, notre capital génétique. Ensuite, il y a le Ti. C'est le souffle, l'énergie qui nous anime au quotidien, celle qu'on utilise pour agir, pour penser. Et enfin, le Shen, notre esprit, notre conscience, la clarté mentale. Et les Sanshi, eh bien, ils sont vus comme des parasites qui vident ces trois réservoirs.
C'est un changement de perspective complet. Si je comprends bien, faire une faute, ce n'est pas un péché qui sera puni un jour. C'est comme laisser une fenêtre ouverte en plein hiver. On perd sa chaleur, son énergie, tout de suite. Le malheur, c'est la conséquence directe de cette perte d'énergie. Ce n'est pas un jugement qui tombe du ciel.
Tu as parfaitement saisi. Le malheur, c'est l'épuisement. Le bonheur, c'est la plénitude. La responsabilité est totale et elle est instantanée.
C'est fascinant, mais ça reste que complexe. J'imagine qu'il fallait des outils assez puissants pour transmettre ça à tout le monde. Comment on fait pour que ça parle à un paysan comme à un lettré?
Par les histoires. C'est là qu'interviennent les fameux « tu-chois », ces recueils d'anecdotes illustrées. C'est le cœur de la transmission populaire. Elles ne cherchent pas à démontrer, elles montrent. Prenons la piété filiale, par exemple, une vertu capitale. L'histoire de Dong Yong est un classique.
Raconte.
C'est un jeune homme, très pauvre, tellement pauvre qu'il n'a pas de quoi offrir des funérailles dignes à son père. Alors il prend une décision radicale. Il se vend lui-même comme esclave pour payer la cérémonie.
Se vendre comme esclave, le dévouement est total. Et du coup, comment l'univers répond à un acte aussi extrême?
La réponse est à la hauteur du sacrifice. Le ciel, dit le texte, est ému et lui envoie une divinité, la tisserande céleste, pour qu'elle devienne sa femme. Chaque jour, elle tisse une pièce de soie d'une qualité si incroyable qu'en très peu de temps, il peut racheter sa liberté. C'est la résonance à l'état pur, un acte de dévotion absolue, attire une réponse miraculeuse.
D'accord. On a la piété. Et pour la droiture, la maîtrise de soi, il y a un exemple?
L'histoire de Cao Nai est parfaite pour ça. C'est un fonctionnaire qui supervise une prison. Une nuit, il se retrouve seul avec une prisonnière. Il est fortement tenté d'abuser de son pouvoir. Et pour se maîtriser, il fait quelque chose de très fort. Il prend un pinceau, une feuille de papier, et il écrit « Cao Nai ne peut pas ».
Il matérialise sa décision. C'est un acte de conscience. Il s'engage avec lui-même par écrit.
Exactement. Il grave son choix. Cet acte lui permet de surmonter la tentation. Et la rétribution, quelque temps plus tard, il passe les examens impériaux. Et il finit premier de tout l'Empire, la plus haute distinction possible.
Ce qui est frappant, c'est que la récompense est sociale. Ce n'est pas juste un truc spirituel, ça se traduit par une réussite dans le monde.
Et ça nous montre à quel point ce texte est ancré dans le réel, avec des valeurs confuciennes très fortes. La réussite sociale et la vertu ne sont pas opposées. L'une est la conséquence naturelle de l'autre.
Très bien. Et la compassion, il doit y avoir une histoire là-dessus.
Oui, celle de Yulingi est particulièrement touchante. C'est un homme aisé qui surprend un voleur chez lui, en pleine nuit. Au lieu de crier, d'appeler les gardes, il l'arrête calmement et lui demande « Pourquoi tu voles ?» L'homme lui explique qu'il est écrasé de dettes. Et là, la réaction de Yulingi est incroyable.
Il fait quoi ?
Il lui donne l'argent pour rembourser ses dettes. Et en plus, voyant que le voleur est affamé, il lui offre un repas chaud avant de le laisser partir. Le voleur, complètement bouleversé, change de vie. Et la résonance pour Yulingi, le texte dit que ses descendants, sur plusieurs générations, sont tous devenus de grands lettrés, des fonctionnaires respectés. Sa compassion a transformé le destin du voleur, mais aussi celui de toute sa famille.
C'est une vision du bien qui se propage dans le temps. Est-ce qu'il y a des exemples de réponses plus immédiates ? Presque instantané.
Oui, l'histoire de Zhang Baihu, un officier militaire. Il navigue de nuit sur une rivière et il entend des appels au secours. Quelqu'un se noie. Sans réfléchir une seule seconde, il crie aux pêcheurs à côté. Il leur promet une fortune s'ils sauvent la personne. Il ne calcule pas, il agit.
Et le résultat ?
Les pêcheurs plongent, ils ramènent le naufragé à bord. Et là, coup de théâtre, Zhang Baihu découvre que c'est son propre fils qui était tombé d'un autre bateau. Son acte spontané, désintéressé, a sauvé ce qu'il avait de plus précieux. C'est la loi de Ganying en direct.
D'accord, donc la piété, la droiture, la compassion, toutes ces histoires sont centrées sur des actes, des choses visibles. Mais est-ce que le texte s'arrête là, à ce qu'on fait, ou est-ce qu'il va plus loin?
Il va beaucoup plus loin. Et c'est là qu'on touche au cœur du réacteur. Le texte insiste sur le fait que la racine de tout, c'est l'intention. Il y a cette phrase qui est fondamentale. Lorsque le cœur s'élève vers le bien, même si l'acte n'a pas encore été accompli, déjà les esprits bénéfiques l'accompagnent.
La résonance commence avant même l'action. C'est la pensée elle-même qui envoie la première vibration.
C'est le fondement de toute la pratique alchimique. Pour Singde, purifier ses intentions, ce n'est pas juste un exercice de morale. C'est la première étape du raffinage de l'énergie. Une pensée malveillante, même si elle reste secrète, c'est déjà une fuite de chi, une perte d'énergie. À l'inverse, une pensée bienveillante, un souhait sincère pour quelqu'un, ça aligne notre propre vibration sur celle harmonieuse du Dao. C'est une vraie physique de l'esprit.
C'est une invitation à une vigilance de chaque instant, pas seulement sur nos actes, mais sur la qualité de notre monde intérieur.
Totalement. Et c'est ce qui fait la force de ce texte. C'est un syncrétisme de génie. Il prend des valeurs confucianiennes très concrètes, il y intègre une notion de rétribution qui fait penser au karma bouddhiste, et il noie le tout dans une vision du monde purement taoïste, où tout est énergie, souffle, résonance. Il a réussi à créer un langage qui parlait à toute la société.
Alors, pour résumer, on a exploré ce principe d'action-réponse, cette loi de Ganying. Ce n'est pas un jugement, mais une conséquence naturelle. On a vu comment des histoires très humaines rendaient ça accessible, mémorable, et on a compris que finalement, tout commence non pas dans le geste, mais dans le silence du cœur. dans la pureté de l'intention.
Le traducteur de notre source, Romain Gourmand, termine son avant-propos avec une question qui résume parfaitement l'enjeu et qui reste d'une actualité brûlante. Il demande « Comment nos actes résonnent-ils dans l'univers et quelles traces laissons-nous dans le tissu invisible de la vie ?»
C'est une question vertigineuse.
Et ça m'amène à une dernière pensée. Si on mettait de côté un instant les divinités, la bureaucratie céleste, si on gardait juste l'idée centrale de ce texte comme une métaphore pour notre vie ici et maintenant, si chaque choix, chaque parole et même chaque pensée silencieuse n'était pas un événement isolé, mais une vibration qu'on envoie dans ce tissu invisible de la vie, quelle serait alors la musique que nous sommes en train de composer jour après jour ?